Bienvenue aux Apatries de Anonyme, édition du 17 décembre 2020, en direct des studios de choc.ca. Dernière émission de l'année 2020 pour vos apatrides préférés. Donc, Mathieu au micro, Simon est avec moi, devant moi.
Salut Mathieu, bonsoir. C'est Marie-Ève, salut tout le monde.
Salut à vous les gars.
Salut, salut Marie-Ève. Donc, aujourd'hui, donc comme d'habitude, une heure de contenu parlé et musical sur les enjeux de racisme, d'immigration, de frontières, de sécurité nationale. Au menu, nous aurons entre autres un petit bloc intitulé « Les losers de la semaine ou du mois ». On aura aussi le retour de la minute coloniale.
Yeah.
On aura aussi des actualités autochtones dans quelques minutes et aussi surtout une entrevue avec une porte-parole de la Coalition pour le définancement de la police vers 18h50 environ. On aura une entrevue live au téléphone. Donc voilà pour le programme de la prochaine heure. Pour nous rejoindre dans la vie en général, notre page sur le site de choc.ca pour écouter entre autres nos émissions précédentes. Aussi notre site internet apatridesanonymes.info, notre page Facebook apatridesanonymes avec des S et apatridesanonymes@resist.ca pour nous envoyer des informations, des suggestions, des commentaires par courriel. Donc, je vais commencer avec quelques nouvelles. Simon, si tu me permets.
Vas-y donc.
Donc, des nouvelles d'actualité récentes en lien avec les enjeux qu'on suit ici et ailleurs depuis quelques années. Donc, finalement, un projet de loi a été déposé la semaine passée pour donner un meilleur accès à la RAMQ aux enfants d'immigrants ou de réfugiés ou de demandeurs de statut. Donc, les enfants qui n'avaient pas accès à ce programme-là à cause du statut d'immigration précaire de leurs parents. Ça va faire en sorte que la majorité des enfants nés de parents au statut migratoire précaire et étant habituellement présents sur le territoire québécois bénéficieront d'une couverture d'assurance maladie et médicaments. On parle d'enfants nés ou non au Québec. Ben, on parle de 4350 enfants selon les évaluations qui seraient touchés. On parle d'enfants qui accompagnent leurs parents ayant un permis d'études, qui accompagnent leurs parents ayant un permis de visiteur ou qui accompagnent un de leurs parents ayant un permis de travail qui est pas lié à un programme spécifique. Mais on parle pas nécessairement des enfants de parents qui sont en attente de statut, qui sont en deux demandes. Donc ça va être à clarifier. C'était pas dans le projet de loi, ce que j'ai vu. C'est un troisième essai pour le gouvernement de Legault après l'avoir annoncé cet été. En novembre, finalement, le projet de loi a été déposé juste avant la fin de la session parlementaire. Il faut savoir que selon l'interprétation de la RAMQ, les parents de ces enfants doivent avoir un statut valide au Canada pour bénéficier du régime d'assurance maladie, alors que la loi sur l'assurance maladie du Québec indique que les jeunes Québécois peuvent accéder au régime s'ils sont établis au Québec. Donc, il y a vraiment une fracture bureaucratique entre ces deux visions-là, ce qui fait que là, il y a un projet de loi. On rappelle qu'en 99, Pauline Marois, ministre de la Santé, sous Lucien Bouchard, s'est engagée à régler ce dossier avec comme collègue à l'éducation François Legault à l'époque. Ça fait 21 ans, mesdames et messieurs.
Les portes tournantes.
Autre sujet qui a été dans l'actualité la semaine dernière aussi, un petit dossier de Radio-Canada sur les enfants séparés de leurs parents à la frontière par l'Agence des services frontaliers parce que les parents sont envoyés en détention. Une histoire assez intéressante. On parle de Jean qui est arrivé par le chemin Roxham et il a été détenu au centre de surveillance de l'immigration de Laval parce qu'il avait perdu ses papiers en cours de route de son voyage de plusieurs mois. L'agence lui a retiré ses enfants à la frontière et envoyé dans deux familles d'accueil différentes. Quand même, faut le faire, hein? Ça s'est produit en 2018, mais là, l'enjeu, c'est que selon une directive émise en 2017, l'Agence des services frontaliers ne doit pas séparer les familles ni les emprisonner, sauf dans des cas extrêmement rares et graves. Ce qui n'était pas le cas dans cette histoire-là, entre autres, qui est élaborée dans ce texte-là de Radio-Canada. Selon Action Réfugiés Montréal, au moins 182 enfants ont été séparés d'un parent détenu à des fins d'immigration, juste à Laval, pas pour le Canada, là, mais juste la prison de Laval en 2019.
Non, fait que c'est ça, c'est plus la norme que l'exception, dans le fond, là.
Oui, puis ce que j'allais dire, c'est selon l'organisme, il y en a sûrement plus, parce que ça, c'est seulement les familles qui ont fait appel à leur service, puis il y a plein d'autres organismes, puis il y en a qui vont pas voir l'organisme, des réfugiés, des demandeurs d'asile. Et l'agence ne tient pas de statistiques à ce sujet, donc de parents séparés, d'enfants séparés de leurs enfants, ce qui est dénoncé par plusieurs organisations. La directive a été émise en 2017 par le gouvernement Trudeau pour se conformer au droit international, et le ministre Bill Blair, responsable de l'agence, dit qu'il n'a pas expliqué pourquoi autant d'enfants avaient été séparés de leurs parents, mais que c'était bien important pour eux, les enfants. La directive...
C'est beau, les spins de communication, des fois. Hein?
Surtout par communiqué, hein?
Ben oui.
Ou courriel. La directive stipule aussi que les enfants ne doivent pas se retrouver dans un centre de détention, sauf comme mesure de dernier recours. Pourtant, plus de 138 mineurs du 1er avril au 31 mars 1er avril 2019 au 31 mars 2020 ont été incarcérés seulement à Laval, quand même, avec leur famille en général, évidemment. Tout ça pour dire que finalement, dans l'histoire de Jean et de sa femme Anna, qui est arrivée un peu avant lui, il y a eu plusieurs interventions d'organismes. Donc, les enfants ont été réunis et confiés à Anna, la mère, dans les jours après. Lui, il reste en prison pendant un mois, mais elle a accouché de leur troisième enfant pendant que son mari était en prison. Donc, c'est vraiment des histoires incroyables. Donc, voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. J'aurai d'autres petites nouvelles de ce style, d'actualité, donc dans les prochaines, les prochains micros.
Donc, il y a comme un mythe selon lequel c'est seulement aux États-Unis que ce genre d'histoire-là arrivait, mais il faudrait casser le mythe. Là.
Oui, oui, c'est pas juste non plus en France, à Calais. Hein, c'est, ça se passe aussi...
Près du Carrefour Laval.
Oui. Près du parc Hemingford. Donc, on va y aller avec quelques notes de musique et Simon nous revient avec les actualités autochtones. Donc, Simon, on t'écoute.
Ben oui, je suis là pour vous parler, justement. Actualité autochtone, on en a parlé à peu près à chaque émission. Il y a beaucoup de suivi. Il y a énormément d'actualités ces temps-ci. Le plus récent portrait de Statistique Canada sur les conditions socio-économiques des Autochtones date seulement de 2016. Donc, ça date quand même d'il y a quelques années. Ça avait déjà rien de très réjouissant. Mais la plupart des observateurs s'entendent pour dire que la situation s'est empirée depuis 5 ans. Quelques statistiques un peu en vrac. 118 500 ménages autochtones vivant hors réserve n'ont pas de logement jugé convenable. Donc, c'est une énorme proportion de la quantité totale de personnes autochtones au Canada. Un autochtone est 8 fois plus susceptible de se trouver en situation d'itinérance qu'un non-autochtone. Les mêmes patterns se répètent partout à travers le Canada, avec des nuances entre les différentes régions, les différentes communautés, les groupes d'âge. Il y a du logement social réservé aux Autochtones, mais les listes d'attente peuvent atteindre 10 ans. Pendant 25 ans, pratiquement aucun logement social pour les Autochtones n'a été construit. En 93, le gouvernement de Mulroney avait éliminé le programme fédéral de logement pour les Autochtones urbains et ruraux. C'était le nom du programme. Décision qui avait été maintenue par les libéraux de Jean Chrétien. Le stock actuel de logements a vieilli, évidemment, a été mal entretenu, parfois est devenu carrément insalubre ou n'est plus aux normes, pouvant être habitable, mais avec des ajustements à faire. La situation est pire, surtout pour les Autochtones qui ne vivent pas dans une réserve, donc souvent des Autochtones dits urbains ou hors réserve, là, c'est un peu le jargon administratif qu'on utilise. C'est vraiment la catégorie d'individus qui a le plus de difficultés à se loger, qui passe, c'est paradoxal, mais en dernier dans les politiques publiques. De là l'apparition de camps de fortune un peu partout, un peu comme celui qui a été démantelé de force par la police, par la SPVM sur la rue Notre-Dame ici à Montréal, qui n'était pas un camp particulièrement peuplé de personnes autochtones. Il y en avait aussi. On en voit plus à petite échelle des je sais pas comment, des campings, des campements.
Des mini-campements.
Ouais. Des mini-campements qui sont pratiquement exclusivement autochtones, à plus petite échelle dans certains squats du centre-ville de Montréal. Mais des campements de fortune spécifiquement autochtones, c'est un phénomène qui est plus observé à grande échelle en Ontario, par exemple, ou dans l'ouest du pays dernièrement. D'ailleurs, à Montréal, il y avait un petit campement très autochtone, si on veut dire, dans le quartier Milton Park ou Gatineau-McGill. Je crois qu'il était directement au coin de Park et Milton. Fin novembre, probablement face à la pression de résidents ou de commerçants du coin, l'école bleue de la ville sont venus sans préavis ramasser les tentes, tous les effets personnels pour les jeter dans des bennes à ordures. C'est un peu crève-cœur de voir ça. Il y avait un reportage de CTV, je crois. Donc, ça expose encore plus au froid les pauvres autochtones, dont certains ont l'air assez âgés. Les refuges débordent et à part le métro, il ne reste plus beaucoup d'endroits où se réfugier à la chaleur quelques instants. Les Tim Hortons, les McDo sont fermés. On chiale souvent contre ces chaînes-là, mais ça sert souvent, tu sais, je vais prendre un petit café et je peux rester 2 heures, donc tu peux rester à la chaleur. Mais en temps de confinement, tout ce genre d'endroits-là sont fermés actuellement, donc c'est très difficile comme situation. Bref, on estime presque à 1 milliard les besoins pour seulement rénover les logements abordables pour Autochtones. Sans parler de nouvelles constructions, donc le milliard qu'on réclame, c'est seulement pour des rénovations. Trudeau vient de promettre 225 millions, donc 4 fois moins que ce qui est demandé, répartis sur 10 ans pour à la fois réparer et construire des nouveaux logements. Donc, le calcul est facile à faire. Le manque à gagner est énorme. Et ce qui risque de se passer, c'est que les différentes communautés ou les différentes provinces risquent de chicaner, de serrer chacune de leur bord pour essayer d'obtenir le maximum de financement disponible. À travers le Canada, on estime nécessaire de construire rapidement 75 000 logements sociaux pour personnes autochtones. Faut dire à Montréal, je sais pas si on est vraiment conscient du problème, là on avance des chiffres comme ça, mais c'est pas ici que c'est le plus visible, comme j'ai dit tantôt, il y a des grands campements très grands dans d'autres provinces, il y en a pas tant que ça à Montréal. Il y a des villes comme Edmonton, Winnipeg, Vancouver qui ont 2 à 3 fois plus d'itinérants autochtones sur leur territoire, et des villes carrément vraiment beaucoup plus petites comme dans le nord du Manitoba, dans le nord de l'Ontario, comme Kenora entre autres, qui est un exemple qui est souvent cité, qui sont prises avec des crises majeures. Donc Kenora, c'est un exemple frappant, population 15 000 habitants, il y a des centaines de jeunes autochtones dans la rue. Il y a plusieurs grands campements, beaucoup plus grands que ce qu'on a vu ici, là, beaucoup plus grands que ce qu'on a vu sur la rue Notre-Dame, par exemple. Et le phénomène continue d'augmenter. Donc, devant l'urgence, on est encore à l'élaboration de politiques plutôt qu'à l'action. On n'a toujours pas construit de nouveaux logements et ou entamé des chantiers qu'on considère comme urgents. Là, c'est autour de la Société canadienne d'hypothèques et de logements qui va nous faire des propositions au gouvernement fédéral prochainement pour ajuster ses stratégies actuelles. Donc, vous voyez un peu dans le genre d'état d'esprit dans lequel on est. Et les gens sont à bout. On peut le constater dans les témoignages qu'on lit, qu'on entend, autant pour les personnes frappées par la crise que que de la part des personnes qui leur viennent en aide. L'argent doit se rendre. Les chantiers doivent commencer. C'est vraiment une urgence. D'ailleurs, première AG de l'Assemblée des Premières Nations, l'APN va se tenir bientôt de manière 100% virtuelle pour la première fois. Bonne chance aux communautés éloignées qui n'ont pas Internet ou qui n'ont pas haute vitesse pour participer à ce Zoom géant. Trudeau, d'autres ministres vont y assister et vont se faire remettre au visage leurs engagements en matière de logement, évidemment, aussi d'Internet, d'infrastructures, d'eau potable. D'ailleurs, à ce sujet, sur l'eau potable, il y a un peu d'avancement, il faut le souligner. Avec presque la moitié des objectifs atteints depuis 5 ans, il y avait 105 avis d'ébullition de l'eau il y a 5 ans, quand les libéraux sont arrivés au pouvoir, il en reste 59.
Dans les réserves, hein, c'est bien ça?
Oui, c'est ça, qui sont dans, ça vise 41 communautés, ben, qui restent à lever les avis d'ébullition de l'eau.
Mm-hmm.
On va aborder les services sociaux de santé lors de cette Assemblée générale. On va exiger un suivi sur l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. On va discuter du projet de loi fédéral qui vise à plus ou moins arrimer le Canada à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. À l'ordre du jour, évidemment, il y a l'après-pandémie. Qu'est-ce que ça implique pour les communautés? Donc, beaucoup d'inconnus qui s'en viennent et les effets dévastateurs, bon, on les connaît pas tous encore.
Mm-hmm.
On va souvent demander des comptes sur Trans Mountain, sur la situation des pêcheurs en Nouvelle-Écosse, dont on apprenait tout récemment que certains pêcheurs autochtones ont capitulé devant l'intimidation et la violence des pêcheurs blancs, ont cédé à la peur et décidé d'abandonner la saison actuelle de la pêche au homard pour leur propre sécurité, même si dans plusieurs cas, c'est leur principal moyen de subsistance. On peut dire que le fédéral a très bien agi dans ce dossier-là. En fait, on peut même poser la question, a-t-il agi? Écoutez, je pourrais vous parler, on va regarder des sujets pour 2021, parce que comme je dis, l'actualité est foisonnante. Je voulais vous parler peut-être des anciennes entreprises extractivistes qui ont laissé des cochonneries un peu partout.
Dont des mines, hein?
Ouais. Des mines, une papetière. Dans l'Ontario, j'avais 2 exemples, entre autres. Les gens, il y a de la mortalité infantile, de la mortalité prématurée. Il y a des projets de décontamination qui avancent pas, mais les gens continuent à manger du poisson contaminé. Bref, plein de sujets à développer en 2021 et d'autres qui s'en viennent aussi sur l'actualité autochtone.
Ben, c'est quasiment rendu une tradition, une habitude. Aux 2 semaines, on fait un bout sur les actualités autochtones parce qu'il y a tellement de choses qui se passent puis on veut en parler, on trouve ça important. Donc,
on le faisait moins avant, mais en tout cas, c'est soit que ça sort plus.
Ça sort plus aussi. Puis on s'intéresse plus, je pense, généralement à ça aussi. Ouais.
Ben, surtout qu'on se rend compte que c'est des dossiers dont il faut continuer à parler parce qu'ils ne se règlent pas.
Il y a tellement de retard, oui.
Voilà.
Oui, c'est ça, mais même sur, je pense que depuis que Radio, il y a Espace Autochtone sur le site de Radio-Canada. Je pense que tout ce qui en, les enjeux qui entourent, qui touchent au peuple autochtone sont beaucoup plus présents dans les médias de masse en général.
Francophone, en tout cas.
Ouais.
Puis on est plus au courant de ce qui se passe partout au Canada aussi.
Ouais.
On va y aller. Merci, Simon.
fait plaisir.
La suite bientôt. Donc, on va y aller en musique avec un groupe qu'on aime bien en général, qui s'appelle War on a Woman, un groupe de Baltimore, donc qui a sorti un nouvel album, son cinquième, en octobre dernier, tout récemment. L'album s'appelle Wonderful L. C'est sur les disques Bridge 9 Records. On va y aller avec la pièce White Lies. Le groupe War on a Woman, la pièce White Lies, nouveauté tout récente de ce groupe américain. Donc, Marie-Ève, je vais te passer la parole pour introduire ton entrevue.
Oui, en fait, depuis l'assassinat policier de George Floyd le 20 mai dernier à Minneapolis, aux États-Unis, on le sait, les initiatives qui visent à réclamer plus qu'une simple réforme de la police se sont multipliées en Amérique du Nord pour exiger son définancement ou carrément son abolition. Aux États-Unis, les villes de Los Angeles et de New York, notamment, ont approuvé des réductions budgétaires pour les corps policiers. Au Canada, la ville de Toronto a rejeté en juin une proposition de diminution de 10 % du budget de sa police. Et à la fin juillet, le conseil de ville de Vancouver a adopté un amendement qui vise à retirer des mains de la police les urgences sociales et de santé mentale. Quant à la ville de Montréal, ben le budget qui a été adopté au mois de au début du mois, le budget pour 2021, ben prévoit une augmentation du financement du SPVM et pas une petite augmentation de 14,6 millions de dollars pour atteindre presque 680 millions. Pourtant, il y a eu des consultations pré-budgétaires qui ont été organisées par la ville au mois d'août, puis qui ont révélé que 60% des Montréalais, Montréalaises sont en fait en faveur d'une réduction des services de police. Donc, pour discuter de tout ça aujourd'hui, on reçoit Jessica Quijano de la Coalition montréalaise pour le définancement de la police, qui est une coalition de 65 groupes qui s'est formée en juin. Jessica, t'es bien là?
Allô, comment ça va?
Ça va très bien, et toi?
Ouais, ça va.
Est-ce que j'ai bien prononcé ton nom de famille, Quijano?
Ah, c'est Quijano.
Quijano, OK. Parfait, merci. peut-être d'abord, tu pourrais nous dire un peu pourquoi réduire le budget de la police, que ce soit de 50%, mais pourquoi réduire le budget et pourquoi les réformes ne fonctionnent pas, selon vous?
Bon, ben, premièrement, en ce qui est des réformes, c'est ça fait très longtemps qu'on essaye de réformer la police. Ça fait plusieurs décennies. Moi, je travaille présentement avec le foyer des femmes autochtones et avec mon projet, c'est un projet qui s'appelle Ishkwe. J'accompagne des familles et des proches quand une disparition d'une femme autochtone. Alors, je fais ce travail comme première ligne pendant 17 ans. Alors, je vois au quotidien, qu'est-ce que la police font. Et moi et mes collègues, pendant plusieurs années, nous avons essayé beaucoup de choses pour réformer la police et ça fonctionne pas, vraiment pas. Puis, il faut aussi se demander, tu sais, l'institution de la police était vraiment faite pour marginaliser les personnes racisées, les personnes autochtones. Alors, la structure de base, elle fonctionne comment elle était structurée pour commencer. Alors, quand on dit la coalition pour définancer la police, on demande une réduction de 50% de budget. On dit ça parce qu'on sait que c'est la majorité des tâches de policiers que la police font sont pas dans le crime. Alors, on voit beaucoup la police font des tâches comme le trafic, ils donnent beaucoup de, comment on dit, profilage sur les personnes en pauvreté, itinérance. C'est vraiment c'est pas des enjeux de crime, qui répond souvent.
C'est vraiment plus du contrôle social.
Ouais, exact. Des problèmes sociaux, de pauvreté. Et nous, des financements de la police, ce qu'on dit, c'est qu'on veut prendre cet argent-là et le réinvestir dans des communautés pour vraiment résoudre des problèmes sociaux de base. Comme, admettons, l'itinérance, on prendrait cet argent puis le mettre envers les logements. C'est une raison. Puis le groupe qu'on est, on représente vraiment les communautés les plus marginalisées et qui sont les plus affectées par la brutalité policière.
Oui. Comment est-ce que vous réagissez d'ailleurs au budget qui a été adopté par la ville?
Ah, mais on était très déçus. Considérant que plusieurs villes, comme vous avez nommé au début, même aux États-Unis, il y a un vouloir de définancer la police. Et aussi, il faut vous rappeler que Montréal est une des villes qui, la majorité de ville, c'est 164 policiers par 100 000 habitants, mais à Montréal, c'est 214, qui est beaucoup plus. Puis, on est comme une des villes qui a le moins de crimes. Et on est 29 sur la liste. Alors, on peut se vraiment demander pourquoi Montréal augmente leur budget depuis 2010, augmenté par 40% comparé à d'autres villes. On doit poser la question pourquoi Projet Montréal, la mairesse Valérie Plante, pourquoi elle fait des sondages, elle demande aux Montréalais s'ils sont pour un définancement de la police. Même ils ont fait une erreur, c'est pas 60%, on a regardé les chiffres, c'était 73% des Montréalais, il y avait 23 000 Montréalais qui ont répondu ce sondage, ce qui est extrêmement haut pour un sondage de ville, qui ont répondu qu'ils étaient pour le définancement de la police.
Oui.
Alors, c'est quoi la raison pour pas écouter, premièrement, les voix de Montréalais? Et aussi, on vient juste d'avoir un meurtre, Sheffield Matthews à Notre-Dame-de-Grâce, récemment aussi, au SPVM. Alors, pour nous, c'est vraiment urgent qu'il y ait un définancement de la police qui a un changement radical par rapport au SPVM.
Ben, selon, tu sais, Valérie Plante, elle a dit qu'il serait irresponsable, je la cite, là, de couper le budget de la police sans savoir où réallouer ces argents-là. Tu as parlé de logements et tout, mais est-ce que tu peux nous donner un peu d'autres idées, tu sais, où est-ce que vous suggérez de mettre ces fonds-là? Oui.
Ce qui est vraiment excellent, c'est comme notre coalition, on est allé faire des sondages auprès d'organismes communautaires qui travaillent vraiment avec des populations le plus affectées par la police, autochtones, noires, qui travaillent en pauvreté, puis aussi santé mentale, parce que souvent la police répond aux appels de santé mentale. 70% des assassinats de police, c'est à répondre à des cas de santé mentale. Et on a fait un budget alternatif et où les ressources pourraient aller.
Vous avez publié en novembre, ouais, c'est ça?
C'est ça. Puis il faut aussi se comprendre, les communautés autochtones et noires et racisées, déjà, on n'utilise pas la police. Alors, moi, je fais souvent des interventions en santé mentale. J'ai travaillé longtemps dans des sites d'échange d'injections, en réduction des méfaits. Moi, j'ai jamais fait mal à du monde. Puis, ils interviennent souvent avec des personnes en détresse. Alors, il y a une façon d'intervenir avec quelqu'un qui souffre d'un problème de santé mentale, qui est en crise, sans, premièrement, les blesser. Et deuxièmement, je dirais que la police sont même pas qualifiés à faire ces tâches, sont pas formés pour faire ces tâches, et je crois pas qu'ils veulent faire ces tâches, oui. Honnêtement.
Voilà.
Alors nous, c'était d'investir dans les ressources communautaires qui existent déjà, qui sont très sous-financées, et leur dire ce serait quoi que vous aurez besoin pour votre communauté, comme qui sont souvent interpellés par la police, qui sont souvent en prison, pour qu'on peut faire la prévention d'avoir des situations de police. Et ça serait aussi d'avoir peut-être, si souvent on appelle la police parce qu'on n'a pas autre choix, ça serait d'avoir un, comme d'autres villes, comme à Oregon, ça fait depuis les années 2000, qui ont comme un task force de 24/7, 7 jours par semaine, qui est relié à des problèmes sociaux. Alors, si, admettons, exemple, ta voisine qui est peut-être à l'air en détresse, tu l'entends souvent crier, tu sais, ça serait pas d'appeler 911, ça serait un policier de police qui viendrait, ça serait une équipe qui sont formés en santé mentale pour dire qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on peut t'aider. Ça serait vraiment dans la prévention, puis je pense que les citoyens seraient plus aptes à appeler un service comme ça que la police, spécifiquement les communautés noires, autochtones et racisées, oui. Parce que souvent, on sait pas comment ça va être. Est-ce que la police va nous faire mal?
Oui.
Alors, c'est vraiment ça. Alors, c'est vraiment quand on parle de définancer, c'est de réinvestir et remplacer les services. Oui.
Écoute, Jessica, on va juste faire une très, très courte pause de 2-3 notes de musique, puis on te revient, on va continuer l'entrevue, on va approfondir certains des enjeux dont tu viens de parler.
OK.
On est toujours, vous écoutez toujours les Apatrides Anonymes et on reçoit Jessica Quirano de la Coalition pour le définancement de la police pour parler de tous ces enjeux-là. J'ai vu aussi, Jessica, quand même que la coalition, bon, il y a plusieurs, au-delà du définancement comme tel, là, il y a, vos revendications vont quand même plus loin que juste un définancement. Il y a aussi comme plusieurs autres points qui touchent notamment au désarmement et tout. Est-ce que tu peux nous en parler un peu?
Ouais. Ben, nous, on veut se désarmer et délimiter. Il y a aucune raison pourquoi on devrait avoir des corps policiers avec des armes. Il y a plusieurs corps policiers à travers le monde qui en ont pas, comme dans le UK, même en Nouvelle-Zélande. Alors ça serait immédiatement parce que c'est vraiment un enjeu de vie et mort pour beaucoup de nos communautés. On parle aussi de décoloniser puis voir d'autres modèles de justice réparatrice qui existent déjà dans les communautés autochtones. Alors on sait que vraiment, présentement, tu sais, notre système aussi de prison Ça affecte notamment les personnes noires et autochtones, comme si on, tu sais, 25% des prisons sont des hommes autochtones et jusqu'à 40% des femmes autochtones, puis ça représente moins de 5% de la population. Alors, ça serait vraiment de voir une façon de justice alternative. Puis, on parle aussi de décriminalisation quand on parle de discrimination de travail du sexe et de drogue, parce que beaucoup de police interceptent, c'est souvent relié à la drogue. Alors, nous, on veut décriminaliser la drogue. On est présentement dans une crise de overdose à travers le pays. Mmh. Montréal, durant la pandémie, il y a des personnes qui meurent.
On parle souvent de Vancouver, mais Montréal connaît le même problème.
Oui, puis même à Vancouver, nous, on vient juste de pousser, il y a une qu'on veut décriminaliser, demander à la mairesse de faire une exemption, de décriminaliser les drogues ici à Montréal, comme le maire de Vancouver, parce que c'est vraiment urgent. Puis aussi de décriminaliser, prendre l'espace public, ça veut dire consommer en public, dormir en public, ce qui est vraiment une discrimination envers des personnes qui sont en pauvreté ou qui ont pas de logement. Mmh. Alors ça, si on y pense, si on enlève tout ça, il y a pas vraiment les tâches de police seraient enlevées. Puis si on parle de même ces cas violents, tu sais, de armes à feu, souvent c'est relié à l'industrie de la drogue. Et aussi, c'est vraiment la police répond toujours à des problèmes sociaux. Si même on voit comme c'est un désastre comme la Polytechnique, tu sais, la police n'était pas capable de prévenir une situation comme ça. Non. Alors nous, on est vraiment dans la prévention, puis vraiment adresser les communautés pour qu'ils ont plus d'équité sociale, équité financière, parce que souvent c'est on veut aussi enlever les policiers des écoles. Il y a beaucoup dans les quartiers défavorisés, racisés. La police, ils font des activités après l'école, comme de boxing, puis de sport. Nous, on se demande pourquoi c'est la police qui font ces tâches-là. Et ça met des communautés vraiment dans des situations à pas avoir beaucoup d'argent, puis que c'est la police qui finance ça. Ouais. Il y a aucune raison que ça serait la police.
Mais pourquoi, parlant de tout ça, tu sais, on a donné beaucoup, dans le fond, beaucoup d'exemples, tu sais, de ce que la police fait de mal ou ce qu'elle fait pas ou ce qu'elle devrait pas faire. Pourquoi n'a pas opté à ce moment-là pour une abolition carrément de la police plutôt qu'un définancement?
Ouais. Ben, nous, on est toujours dans, c'est ça le but final, c'est l'abolition le but ultime, ouais. de la police. Oui, mais il faut qu'on commence avec, c'est vraiment de réimaginer une société complètement différente qui est vraiment basée qu'on prend soin de nous autres au lieu de les criminaliser. Puis c'est aussi quand on parle de définancement de la police, abolition de la police, c'est vraiment comme une abolition du capitalisme qui est vraiment basé sur le racisme, la discrimination. Alors c'est pour nous, tu sais. Tu sais, même juste désarmer puis pas avoir les autres choses, ça va sauver des vies. Mmh. Alors, faut qu'on pense aussi. Puis, définancer la police, c'est vraiment une forme de réforme aussi. Comme, ouais. Moi, je sais qu'on pourrait, comme, éliminer la majorité de la police, mais est-ce qu'on aurait notre but? Tu sais, il y a différentes façons de le voir. Puis, on est toujours en discussion, hein, comme militante. comment, qu'est-ce qu'on pousse dans un système? Et comme vous voyez déjà là, on était même pas, même le vouloir politique était pas là. Alors ça va vraiment venir avec les citoyens, l'éducation, pour qu'ils comprennent plus qu'est-ce que ça veut dire définancer la police. Alors c'est ça. Mais je suis quelqu'un qui est abolitionniste. Ben, pas abolitionniste de prostitution.
Non, non, genre, j'ai compris. Ouais, non, c'est ça, abolitionniste de la police. Ouais. Et des prisons.
Aujourd'hui, c'est la journée internationale pour la violence des travailleurs et travailleuses du sexe. Mm-hmm. Alors, c'est vraiment important que, tu sais, on souligne ça. Je travaille avec des femmes autochtones qui sont marginalisées, qui vivent en pauvreté, qui ont beaucoup de violence dans leur vie. puis il peut pas aller à la police pour protection.
Oui. Ben justement, ma prochaine question touche un peu aux femmes autochtones. Au début du mois, le gouvernement Legault a annoncé un investissement de 18 millions de dollars pour la formation des corps de police autochtones au Québec, qui a été, puis cet investissement-là a été présenté comme une réponse aux appels à l'action de la commission Vient sur les relations entre les autochtones et certains services publics du Québec, là, et aussi de l'enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées. Qu'est-ce que tu penses de d'investissements comme ça ou d'initiatives comme celle-là?
Mais je trouve que c'est malheureux parce qu'on sait beaucoup que c'est quoi les raisons que des femmes autochtones, il y a des disparitions et les assassinats, c'est vraiment lié à la pauvreté, la discrimination, le racisme. Puis c'est pas comme si on n'a pas essayé ces choses avant. T'sais, il y a plusieurs provinces qui ont des corps, des
corps policiers issus des collectivités, ouais.
Ouais, c'est ça. Alors, ils n'ont pas vraiment, ça n'a pas éliminé cette crise sociale. Alors, c'est comme énormément d'argent à investir dans quelque chose qui peut-être pourrait faire des différences. Je ne veux pas enlever comme type de travail qu'on fait de réforme, mais quand on voit plus grand, ça donne, c'est juste, qu'est-ce que ça, comment on dit, it doesn't even touch the surface.
Ouais, non, c'est ça, ça reste, c'est un peu, ouais. C'est ça, ça reste à la surface des choses, ça va pas au cœur du problème et des enjeux.
C'est ça, oui.
Il nous reste pas beaucoup de temps, mais bon, je sais que vous avez, on l'a effleuré tout à l'heure, on parlait du budget alternatif. J'aurais aimé ça qu'on en parle, mais j'aimerais mieux qu'on parle un peu de vos, peut-être de ce qui s'en vient pour vous, pour la coalition, parce que là, comme le budget de la ville a été adopté et tout, c'est quoi vos plans pour les prochains mois?
Mais c'est sûr, ça va être en élection, alors ça va être quelque chose qu'on va pousser avec les personnes qui vont aller, qui vont se présenter contre Projet Montréal. J'irais aussi, ça serait vraiment à pousser d'autres comme Québec solidaire ou d'autres partis de prendre
d'autres paliers de gouvernement.
Oui, alliés, d'aller de prendre sur des financements de la police. C'est souvent, on pense de des partis qui sont de gauche, mais c'est très décevant quand ils sont pas capables de prendre des affaires comme qui sont très, tu sais, aussi c'est beaucoup sur de la recherche, comme c'est pas juste comme quelques-uns de nous qui ont ces opinions, c'est basé sur des décennies de travail, tu sais, le définition de la police depuis les 1960. Alors ce serait vraiment de pousser et être comme en solidarité allié avec les communautés plus marginalisées. Alors nous, on va continuer. Je pense qu'on grandit, la coalition grandit tout le temps. Je pense que maintenant, on est comme à 67 groupes et ça continue à grandir et grandir. On va continuer l'éducation. Puis on demande s'il y en a qui nous écoutent de nous suivre, continuer à envoyer des emails à vos politiciens, à vos conseillers municipaux. Parce que c'est pas quelque chose qui va finir.
Ben merci beaucoup Jessica, puis merci vraiment à tous les groupes qui font partie de la coalition, parce que vous faites vraiment un excellent travail. Notamment, j'invite les gens à aller vraiment lire le budget alternatif que vous avez. Que vous avez fait, c'est hyper bien fait, hyper documenté, c'est beaucoup de recherches. On peut le consulter sur votre site internet, c'est www.defunddespvm.com, c'est ça?
Oui.
Et vraiment, c'est un travail remarquable qui a été fait dans ce document-là. Vraiment, félicitations. Et on vous suit également sur votre page Facebook pour vos prochains événements.
Eh bien, merci beaucoup.
Merci encore.
Bye.
Au revoir. Alors, c'était Jessica Quijano, de la Coalition pour le définancement de la police. On va s'en aller en musique et puis on vous revient après ces plusieurs notes.
Je m'habille en slack, mais je suis pas déjà.
toujours à l'émission Les Apatrides Anonymes, édition du 17 décembre. Donc, on vient d'avoir une interview très intéressante que Marie-Ève a menée avec Madame Kirano, de la Coalition pour le définancement de la police à Montréal. On vient d'entendre le projet « Elle me tue », un drôle de... Hein, on pourrait dire un lien intéressant. Le titre de la pièce était « J'irradie par mon absence ». C'est un single qui est sorti le mois passé, en novembre. L'album va sortir au printemps. Il va s'appeler « Les crucifiés figuratifs ». C'est un projet, c'est un duo qui a deux albums, qui est composé de Nunu Metal, c'est la fille qui chante et qui joue de plusieurs instruments, et de Mingo l'Indien, anciennement des Georges Leningrad. C'était le percussionniste des Georges Leningrad. Donc, l'album est sorti sur Dare to Care. Il va sortir plutôt au printemps prochain sur Dare to Care Records.
Et Mingo l'Indien, en fait, c'était aussi le comparse de Daniel Boone.
Oui, je pense que c'est... Ouais,
c'est ça,
c'est une vieille histoire. Ouais. Oui, un peu louche.
Un peu, oui.
Donc, je vais vous parler dans ce micro d'information sur quelques chiffres qui sont sortis récemment en lien avec les réfugiés dans le monde, les demandeurs d'asile, les migrants. C'est la fin de l'année, donc on a des chiffres qui sortent. C'est pas une bonne année, évidemment, en général, autant sur le terrain, c'est-à-dire COVID, conflits armés et tout, mais évidemment pour les réfugiés et leurs déplacements. Donc, un nombre historiquement faible de réinstallations pour les réfugiés en 2020. C'est le titre d'un article de Info Migrants sorti il y a une semaine. C'est le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui nous informe de la situation en 2020. On sait qu'il y a trois solutions, entre guillemets, trois options pour les réfugiés. Soit le retour volontaire dans leur propre pays, quand la situation est possible. Il y en a 102 000 qui ont pu faire ça au premier trimestre de 2020, une diminution de 22 % par rapport à 2019. Il y a l'intégration locale dans le premier pays d'accueil. Et il y a évidemment la réinstallation qui est organisée avec les États pour que les gens soient acceptés. C'est très complexe et bureaucratique. On estime à 1,4 million le nombre de réfugiés ayant besoin d'une réinstallation actuellement. L'an passé, ce sont un peu plus de 63 600 qui ont été réinstallés dans différents pays. Cette année, seulement 17 400 l'ont été pour les six premiers mois. Fait que c'est sûr, si on double ça, on tombe à 35 000. On est beaucoup en bas de la barre. C'est un des niveaux les plus bas jamais observés depuis plus de 20 ans, évidemment. 2020 était compliqué pour les réinstallations à cause de la pandémie, évidemment, qui a touché les pays. Les vols ont été suspendus, les frontières ont été fermées et, entre autres, les évacuations de la Libye ont été interrompues complètement. Ça, c'est... Il y a beaucoup de migrants qui passent par là, comme on le sait. On en parle souvent. Donc, le HR a lancé un appel aux États pour qu'ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir pour honorer leur quota de 2020 et surtout pour qu'ils renouvellent leurs engagements en 2021, au moins au même niveau, si c'est pas plus, pour faire de rattrapage, si on peut dire. Il faut dire qu'il y a près de 170 pays qui ont appliqué des restrictions aux frontières aux déplacements. Des millions de personnes déplacées à travers le monde sont actuellement bloquées, incapables de retourner dans leur pays ou se déplacer vers leur pays qui les attendent avec la réinstallation. On va le souligner, le Canada a été toutefois l'un des seuls pays à avoir écouté les appels du HCR pour les réfugiés. Même au plus fort de la pandémie, le Canada a accepté certains cas urgents. Et depuis que les frontières réouvrent un peu, que les voyages reprennent, Ottawa a commencé à accepter davantage de cas sur le territoire. Puis on rappelle que le Canada est le pays dans le monde qui réinstalle le plus de réfugiés pour sa population, même en chiffre absolu souvent. Donc,
mais tout ça, ces chiffres-là, ce qu'on ne dit pas, ce qui cache en fait, ou c'est un sous-chiffre, là, c'est que ça veut dire, en tout cas, j'imagine que la corrélation de tout ça, ça veut dire qu'il y a plus, c'est que les nombres de personnes dans des camps doivent avoir augmenté de beaucoup comparativement à d'autres années.
Oui, ça serait des chiffres à regarder. Oui, c'est sûr qu'il y a des gens qui se sont moins déplacés parce qu'aussi les frontières étaient fermées. On s'entend même pour sortir de leur pays.
Ouais.
Mais les conflits ont été aussi nombreux. Mais j'y arrive d'ailleurs avec quelques informations. Donc, le Canada, avant la pandémie, prévoyait réinstaller 30 000 personnes en 2020. C'est un chiffre assez impressionnant pour qu'on compare aux autres pays. À la fin de septembre, c'était un peu moins de 6 000 qui avaient été accueillis et on s'attend à 7 000 d'ici la fin de l'année. Donc, on voit vraiment l'objectif pour 2021 est de 35 000 réfugiés installé avec le concert des organisations de l'ONU. Et il n'y a pas eu seulement la fermeture des frontières comme défi. Beaucoup de personnes se débrouillaient économiquement avant que la pandémie ne frappe, mais leurs sources de revenus se sont complètement taries avec le virus. Des gens, par exemple, qui sont qui travaillent dans la rue, qui ont un commerce de rue dans un autre pays où ils sont réfugiés. Donc, on parle toujours des réfugiés. Donc, on a vu des populations entières passer de vulnérables avec la capacité de se maintenir à vraiment beaucoup vulnérable. La capacité de scolariser les enfants a aussi été gravement malmenée cette année. Le plan B de l'apprentissage en ligne, possible dans certains pays développés, n'est tout simplement pas envisageable ailleurs, surtout dans des camps de réfugiés. Hein?
Ben non, je sais
que... Certaines études suggèrent que plus de la moitié des filles...
Tout le monde a son iPhone 18, je pense. Dans
oui,
surtout Internet.
Oui, ouais, la 5G ouais. En Somalie, ça portait très bien. Ouais.
Ouais. Certaines études suggèrent d'ailleurs que plus de la moitié des filles réfugiées pourraient ne jamais reprendre leurs études postsecondaires après la pandémie à cause de l'arrêt qu'il y a eu, puis toute la situation qui va en suivre. Donc, le HCR a fêté cette semaine, ses 70 ans. L'agence avait été créée pour aider les Européens déplacés après la Seconde Guerre mondiale. Il ne devait à l'origine exister que quelques années. Donc, voilà. Sinon, vous dire, pour ce qui est... Là, j'ai parlé des réinstallés. Si je vous parle des réfugiés. Donc, bonne nouvelle, hein, ironiquement. Le nombre de réfugiés et de déplacés dans le monde a dépassé la barre des 80 millions à la mi-2020, un record historique. Donc, on souligne que les déplacements forcés ont doublé au cours de la dernière décennie. On parle de vraiment tous les réfugiés et tous les déplacés. Donc, 80 millions, ça inclut 48 millions de personnes déplacées dans leur propre pays. 30 millions de réfugiés déplacés de force hors de leur pays et 4,2 millions de demandeurs d'asile en attente, comme les réinstallations, entre autres. On parle de 30 à 34 millions d'enfants dans le monde qui sont déplacés. Et on souligne dans l'actualité, malgré l'appel urgent lancé en mars par le secrétaire général des Nations Unies en faveur d'un cessez-le-feu mondial pendant la pandémie, les conflits et les persécutions se poursuivent. Évidemment, hein? Et je voulais finir là-dessus, pas finir là-dessus, mais finir avec sur les Rohingyas. Une nouvelle quand même importante quand on parle de réfugiés déplacés, c'est une des populations les plus affectées dans le monde actuellement. Donc, au début du mois de décembre, le Bangladesh a commencé le transfert controversé de plus d'un millier de réfugiés Rohingyas vers l'île de Bashanchar, une formation sédimentaire battue par les cyclones et soumise aux inondations, que les Nations Unies et les groupes de défense des droits de la personne jugent dangereuse. Pour rappel, on sait que près d'un million de réfugiés Rohingyas vivent dans un réseau de camps misérables dans le sud du Bangladesh. Donc, les Rohingyas, ben, les quelques mille Rohingyas ont quitté les camps à bord de bus à destination d'un port avant leur transfert sur des navires vers la fameuse île dans le golfe du Bengale. La marine du Bangladesh a construit sur l'île des refuges pouvant accueillir au moins 100 000 Rohingyas, ben, 100 000 personnes, on dit Rohingyas, ainsi qu'une digue haute de 3 mètres pour les protéger des inondations, même si on parle de souvent d'ondes de tempête de 5 mètres. Donc, le HCR, l'Organisation internationale pour les migrations et le PAM, le Programme alimentaire mondial, ont déclaré qu'ils ne pouvaient pas soutenir cette transfert-là parce qu'il y avait au niveau technique, au niveau humanitaire, ça n'avait pas de sens. Et on dit, selon les ONG plus militantes, entre guillemets, Human Rights Watch et Amnesty, que certains réfugiés ont été contraints à quitter leur camp pour aller vers cette île. Le ministre des Affaires étrangères du Bangladesh, A.K. Abdul Momen, a répondu, c'est un foutu mensonge. C'est cité dans l'article de l'AFP, désolé. Et le gouvernement, donc, a décidé de conduire environ 23 000 familles volontaires d'ici la fin de l'hiver. En terminant, des membres d'une famille de Rohingyas dans un de ces camps de transit ont déclaré avoir été déplacés de force. Donc, qui est déplacé? Comment sont choisis? Pourquoi? C'est-tu au hasard? On sait pas, mais on les envoie sur une île. On a l'impression de passer le restant de leur jour sur cet endroit. Donc, un exemple concret des déplacés, des réinstallés, des réfugiés. La situation des Rohingyas qui est toujours d'actualité. Donc, on va y aller, si je ne me trompe pas, avec le grand retour, mesdames et messieurs, de la Minute coloniale.
On change complètement de registre immédiatement.
Oui, on sépare.
Les apatrides anonymes vous présentent la Minute coloniale. La télévision est le miroir du peuple et le petit écran canadien-français a toujours été le reflet animé de notre belle diversité ethno-raciale. Au fil des ans, une multitude d'acteurs de couleur nous ont fait rêver par leurs personnages secondaires tantôt attachants, tantôt intrigants. Pensons au mémorable personnage de Patrice dans Moi et l'autre, interprété avec fougue par Norman Brathwaite. Au personnage d'Elvis dans Peau de banane, interprété lui par Norman Brathwaite. Au personnage de Denis dans Citivon, interprété de son côté par Norman Brathwaite. Au personnage du pêcheur qui, lui, dans Samedi de rire, est interprété
par cet autre excellent acteur, Normand Brathwaite, au personnage de Julien dans Chambranville, interprété par Grégory Charles. Monsieur Brathwaite n'était probablement pas disponible, comme pour ce Bye Bye 2013, où, faute de mieux, l'on dut peinturlurer le visage d'un acteur blanc pour personnifier Grégory Charles. Dans un autre savoureux Bye Bye, notre Normand national y est allé d'une désopilante variation en N de la bien connue chanson L'Aigle Noir. Pour assurer une juste représentation de nos belles ethnies, chaque secteur du show business peut se targuer de posséder deux personnes de couleur. Normand Brathwaite et Grégory Charles aux variétés, Normand Brathwaite et Boucardi Youf pour l'humour, Normand Brathwaite et Grégory Charles pour la musique, Normand Brathwaite et Boucardi Youf à la radio. Le milieu politique, pour sa part, a dû se rabattre sur l'autre acteur, Makakoto, pour combler le vide chromatique chez les péquistes, puisque Normand Brathwaite était probablement occupé à expliquer à quel point la société canadienne-française est la plus accueillante de la planète, ce que nous savons tous. Maintenant, passons sous silence tous ces autochtones ainsi que les très nombreuses femmes noires qui égaient notre paysage télévisuel. C'est une véritable invasion, en y instillant un parfum de tropicalité dans une savoureuse délégation arc-en-ciel de toutes les tonalités et musicalités de la race humaine. C'était la Minute Coloniale présentée par les apatrides anonymes.
Oh là là, c'est mon grand retour de la Minute Coloniale en tout en musique et en quétainerie, hein, finalement.
Ouais, je suis vraiment désolé de passer des Rohingyas à ça, là. On aurait dû mettre un interme du clavecin, comme
ça. Un avertissement,
hein? Donc, je sais pas si t'as reconnu les thèmes musicaux. C'était, pendant toute la c'était moi et l'autre.
Ben oui.
Puis on a fini avec Peau de banane.
Oh, yes.
Quand même.
Des souvenirs.
Donc, il n'y avait pas une minute coloniale depuis février dernier. Donc, c'est une première en pandémie.
Presque un an. Ah, oui.
C'était peut-être un peu plus léger que d'habitude, là. On a changé de Lionel Groulx ou Amherst. Peut-être un peu en écho avec l'entrevue qu'a donnée Adib Al-Khalidi à la grande messe du dimanche. On m'avait fortement recommandé d'aller visionner ça. Je suis allé voir. Il a effectivement livré un témoignage bien senti où il disait que toute sa vie, surtout son enfance, son adolescence, il s'est jamais vu à la télé, que ça a miné son estime de lui-même, de se sentir exclu carrément. Donc, il semble que ce soit un peu mieux aujourd'hui, mais encore beaucoup de chemin à faire. Mm-hmm. On dirait que la plupart des séries et téléromans ont une personne racisée, toujours dans un rôle secondaire, et souvent pour interpréter des stéréotypes, des maghrébins pour jouer les intégristes, des autochtones pour incarner des personnes avec des problèmes de consommation, par exemple. On va parfois tellement dans le cliché qu'on demande, par exemple, à des acteurs d'origine haïtienne de jouer des chauffeurs de taxi avec le gros accent haïtien, accent que les acteurs n'ont jamais eu de leur vie.
Ouais, des Africains qui vont jouer ça en plus, toujours encore plus...
Ouais, ouais, quelqu'un du
Côte
d'Ivoire, ouais, c'est ouais. Ça, il demande de faire l'accent haïtien.
Ouais.
C'est pratiquement jamais des premiers rôles qui sont... Ben, les rôles sont ceux qui sont les plus payants, donc du point de vue salaire, donc sans vouloir entrer dans une analyse systémique. Non? On dit que ça prend des gros noms pour vendre un projet. Donc, il y a toujours la roue comme ça qui mm-hmm. tourne. Donc, parmi les rôles les plus importants joués par des personnes racisées, ce sont très souvent des acteurs actrices métisses et pratiquement toujours nés au Québec. Donc, c'est quand même bizarre. Quand on regarde, par exemple, les gros galas artistes ou Gémeaux, ça arrive encore aujourd'hui que les nominés, ce soit 100% de personnes blanches. Donc, encore en 2020, c'est fou. Bref, j'ai lu quelques analyses sur le sujet. Oui, il y a une légère amélioration dans les 5 dernières années, mais ça semble long de changer les choses. Certains se font même dire carrément par des producteurs québécois, t'as aucune chance ici, essaye du côté anglais ou va en Ontario, va en Californie. Il y a d'autres domaines où ça va mieux, semble-t-il, la musique, l'animation, le côté jeunesse, l'humour, mais du côté vraiment cinéma, télé,
dramatique,
il y a théâtre aussi, on est vraiment dans les années 50-60 encore, donc il faudrait inviter des acteurs issus des minorités pour nous en parler en 2021, c'est ma proposition.
Oui, après les humoristes, les acteurs, tout ça fait raison. On y voit quelques notes de musique. Donc, parmi les nombreux et nombreuses, surtout nombreux losers des dernières semaines, derniers mois et de l'année 2020, on fera pas un palmarès aujourd'hui, ça ira peut-être au retour en janvier. Donc, quelques niaiseux nonos imbéciles qui ont eu des petites débarques. Donc, le PDG du 6 de Lanaudière a perdu son poste, mais il a pas été congédié. Il y a comme quelqu'un qui l'a remplacé. On s'arrange comme ça.
Il est ambassadeur au Danemark?
Non, quand même. Il reste dans le réseau de la santé. Il ne faut pas qu'il aille trop loin. C'est un élément très, très important. Donc, le gouvernement du Québec avait annoncé la nomination d'une observatrice ministérielle au 6 à la mi-novembre et elle a constaté que le lien de confiance avec la communauté du Québec avait été brisé. Tiens donc. Et finalement, le grand chef du Conseil de la Nation du Québec, Constant Wachiche, a fait savoir qu'effectivement, son congédiement, entre guillemets, faisait partie des demandes de la communauté. L'ex-PDG, avait prétendu ignorer les problèmes de mauvais traitement et de propos racistes envers les membres de la communauté de Manawan dans les services publics au Québec, plus précisément à l'hôpital de Joliette. Or, des témoignages faisant état de l'insatisfaction généralisée des Atikamekw à l'encontre de l'hôpital ont notamment été entendus à la commission Vien. Et le même PDG, c'est pour ça qu'il a été congédié, je pense, avait alors assuré qu'une employée du CIS chargée de lui rapporter ce qui était dit à la commission ne l'avait pas fait. Et cet employé s'est empressé de démentir, soutenant que Daniel Castonguay était bien au fait des griefs des Autochtones. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Mais M. Castonguay, donc, a été appelé à prêter main forme aux équipes ministérielles pour s'attaquer à la pandémie. Il se greffera notamment en tant que contractuel à l'équipe du sous-ministre adjoint pour la campagne de vaccination contre la COVID. Donc, son 500 000 par année est toujours assuré.
Phew.
Non, mais c'est surtout, on dirait quasiment une promotion, tu sais.
C'est ça. Ouais, voilà, on te sort du merdier, puis c'est ça.
On va te mettre comme
dans un beau bureau à Québec. Ouais, c'est ça. Ah, les mandarins, c'est comme ça que ça fonctionne, hein, sont protégés. Sinon, l'enseignant Montréal-Nord qui a été congédié après des allégations de racisme, ça fait déjà quelques semaines. Vincent Ouellet, donc, vous rappelez rapidement que des anciens élèves et des élèves actuels de l'école secondaire Henri Bourassa, qui se présentent comme les béliers solidaires, avaient utilisé une vidéo. On rapportait les propos de Ouellet qui tenait depuis plusieurs années, puis on parle de propos, de commentaires racistes, xénophobes, misogynes. Ils sont contents, les béliers solidaires, ces anciens et actuels étudiants de l'école Henri Bourassa, mais ils parlent d'une victoire partielle, car ils attendent toujours une forme de responsabilisation de la direction de l'école, qui a pas su agir dans les années précédentes, quand des étudiants ont porté plainte déjà à l'époque. Le groupe espère qu'une enquête sera lancée sur la direction de l'école pour qu'on puisse remédier aux failles structurelles. Et ma dernière brève sur les losers ou les futurs losers ou les ceux qui essayent.
T'as pas de loser-loseuse ou loser-racisé, il me semble? Ben c'est
non.
Pas très équitable.
Ben non, c'est juste des hommes blancs maudits. Je suis bien nono, hein, je te le dis, franchement. donc, dans le quartier libre du 1er décembre, on apprenait que des étudiants de McGill voulaient fonder une White Student Union à l'invitation du groupe Student for Western Civilization, qui est un groupe basé en Ontario, proche de l'extrême droite, a déjà réussi à fonder des associations d'étudiants blancs. Ils ont même fait une campagne d'affichage autour du campus de McGill. Évidemment, l'association étudiante de l'Université McGill était pas très d'accord. Parlait de suprématie blanche, de haine raciale. Et finalement, ils déposent leur demande supposément dans les prochaines semaines. On n'a pas eu de nouvelles, mais j'imagine que ça passera pas à McGill, malgré que, on sait jamais. Peut-être vous terminez là-dessus avec une citation que j'aime bien de ce groupe Western, Student for Western Civilization. Les associations pour les étudiants blancs sont indispensables pour défendre les intérêts de ce groupe ethnique envers lequel les expressions de haine sont non seulement tolérées, mais aussi encouragées par nos universités elles-mêmes. Les intérêts principaux de ces associations sont d'établir et de maintenir une culture de la liberté d'expression et de la diversité intellectuelle afin de garantir que la pseudo-érudition anti-blanche se heurte à de solides contre-arguments.
Hein? Ah, le privilège noir.
Voilà. Donc, voilà pour les losers. Il y en aurait plein d'autres, mais on n'aura pas le temps. On y va, donc, avec quelques notes de musique et on vous revient pour la fin de l'émission. Donc, j'ai oublié un loser, Simon. Je vais finir avec ça.
Tu veux que je devine c'est qui?
Ou... Ouais, c'est un député conservateur.
Poilievre.
Pierre Poilievre.
Poilievre, excusez.
Député d'Ottawa, qui s'est embourbé dans une histoire de pétition pour dénoncer la grande réinitialisation, The Great Reset.
Il est presque dans le pédosatanisme.
Voilà. Donc, il a même fait une pétition sur sa sur son site Internet pour qui disait « Les Canadiens doivent se défendre contre les élites mondiales qui se nourrissent des peurs et du désespoir des gens dans le but d'imposer leur prise du pouvoir. » C'est ça l'invitation à signer une pétition contre la grande réinitialisation. Mmh. Et là, on accuse Trudeau, avec un discours à l'ONU, d'avoir propagé ça. Ça a été repris par tous les sites d'extrême droite, évidemment. En moins de 72 heures, au fin novembre, il y a eu 80 000 noms sur son site pour la pétition. C'est plus que bien des pétitions qui sont déposées à l'Assemblée nationale, ça. Mais là, je vous expliquerai pas c'est quoi. Si vous savez pas, allez voir sur les internets, vous allez avoir l'information. Mais ce que j'ai aimé, quand même, c'est que le seul qui en avait parlé avant Poilievre, c'était Maxime Bernier, quand même. Qui avait dénoncé la grande réinitialisation, qui d'ailleurs est le titre d'un sommet du Forum économique mondial qui aura lieu en janvier sur la reprise économique et blablabla. Mais j'ai bien aimé qu'Erin O'Toole, qui voulait se dissocier de son député, n'a pas vraiment réussi. Dans une vidéo, il répond « Justin Trudeau et les libéraux veulent utiliser la pandémie pour faire une expérimentation massive et risquée afin de refaire l'économie. Ce n'est pas le moment de réimaginer l'économie. Une fois que la pandémie sera derrière nous, nous devons rebâtir le plus rapidement possible. » Ça ressemble un peu quand même. Puis Poilievre, finalement, pour expliquer pourquoi il y avait une pétition, il a dit « Justin Trudeau instrumentalise la pandémie pour imposer son programme idéologique risqué et menacer le mode de vie des gens. » Ça ressemble un peu à son chef, hein, finalement.
Oui, c'est blanc, bonnet blanc.
Exactement. Puis Trudeau, lui, parle juste qu'il faut faire un meilleur pays, qu'il faut profiter de l'occasion pour sentir bien, finalement, là-dedans.
Puis il ne fera rien, de toute façon.
Non, il va continuer à baisser les impôts des grandes entreprises.
Voilà.
Donc, on va terminer l'émission, cette dernière émission 2020, avec de la musique. Mais avant, je vais vous dire
fini 2020!
Oui, est-ce que
c'est fini l'émission?
Défoulez-vous, allez,
non,
allez!
C'est comme fuck you 2020!
Yeah!
Attends de voir 2021.
Oui, le début va être pénible, oui. Donc, on se revoit le 14 janvier 2021, dans 4 semaines, parce qu'on prend. Le 31 décembre, on fera pas d'émission. De toute façon, on n'a pas le droit de rentrer à l'UQAM, je pense, de toute manière.
On forcera pas les portes.
Non, non, non. On fera pas de party à l'UQAM. Donc, pour nous rejoindre, nous écouter, c'est évidemment Apatrides Anonymes, notre page sur le site de Choc, notre site internet apatridesanonymes.info, notre page Facebook, il y a des infos tous les jours qu'on met, des articles, des événements, et puis essayez de communiquer avec nous, ça vous tente pendant ces 4 semaines-là, ça va être dur sans Apatrides Anonymes, n'est-ce pas Simon?
Pour qui? Pour les auditeurs?
Pour les auditeurs auditrices.
OK. Ben,
mais non, pour toi, Simon,
pour
qu'est-ce
toi
que
aussi?
Tu vas faire de tes vacances?
Je vais me tourner les pouces.
Tu vas aller signer des pétitions sur le site de Pierre Poilievre.
Contre Kiwan. Non, je suis en train.
Merci, Marie-Ève, qui a fait une partie de la mise en onde et aussi la super entrevue de tout à l'heure.
Qui était très intéressante.
Très
merci à Jessica Kiano de la Coalition pour le définancement de la police, vraiment.
Oui.
Très intéressant.
Très bon contenu.
Ouais.
Donc, on s'en prendra avec eux. On va annoncer leurs événements. Donc, on va se laisser avec une pièce de Braids, groupe montréalais quand même qui devient vétéran avec les années. La pièce s'appelle Snow Angel. L'album s'appelle Shadow Offering. Il est sorti en juin 2020. C'est une des pièces qui a beaucoup joué dans les radios communautaires et universitaires à Montréal dans les derniers mois. Et je rappelle, c'est un trio montréalais qui est sur Secret City Records. Donc, merci encore à mes acolytes.
Merci Mathieu à l'animation. Très bon job comme d'habitude.
Écoute, ça passe tellement vite, hein? Marie-Ève, c'est fou. Donc, je veux pas finir. Non, je veux pas finir.
Continue.
On revient dans 4 semaines. bonne soirée à tout le monde.
kissing on a flower. The clouds overhead, the lips of my lover. Mother Nature and her offer. The madness, the chaos, the need to march in the streets, fake news and indoctrination, closed borders and